Bonsoir, chers auditeurs des radios Okapi. Nous recevons pour notre émission de ce soir, professeur Baudouin Boissa, membre de l'Union pour la Nation, et il a choisi comme thème libre le procès BDK qui se déroule en Banzangungu dans le Bas-Congo. À ma droite, monsieur Soudi Alimassi, il est conseiller au ministère de l'Intérieur, et son thème libre est l'identification des abonnés dans les compagnies téléphoniques. Cette mesure est-elle conforme à la loi? À l'extrême droite, nous recevons Maître Achille Kabongo, avocat au barreau de la Gombe et président de l'ONG Transparence Afrique. Son thème libre, c'est l'incompétence des juridictions répressives congolaises en ce qui concerne l'indemnisation des catastrophes aériennes au sol. Nous commençons par le professeur Boissa. Vous avez choisi comme thème libre le procès BDK qui se déroule en ce moment précis en Banzangungu dans les Bas-Congo. À vous la parole, professeur.
Bien, nous apprenons qu'il y a un procès des adeptes de BDK, c'est-à-dire de Bundu-Congo à Banzangungu. Bien, tout ce que nous constatons, c'est que ce procès survient après les événements tragiques que connaît encore notre province, suite au commandeur de la mort qui a été envoyé au Congo central et qui a causé la mort de plusieurs centaines de personnes. On parle même de charniers à Patou et à Matern. Il y a une enquête de l'Assemblée provinciale du Congo central qui établit que effectivement il y a eu des odeurs humaines. On aurait découvert, par exemple, à Matern, un morceau de corps qu'on aurait fait expertiser. On ne sait où, parce que ce que nous savons, c'est qu'il existe dans le pays un seul médecin légiste. Il est à l'hôpital général de Kinshasa. Et à ce que je sache, il n'y a aucune réquisition qui a été adressée à mon laboratoire de l'hôpital général où on aurait pu faire un examen histopathologique pour établir s'il s'agissait de la chair humaine ou pas. Donc, ce qu'a déclaré le rapporteur de l'Assemblée provinciale et du Congo central mérite, n'est-ce pas, qu'on exprime des réserves là-dessus. Ce que nous regrettons, c'est que il y a un procès des adeptes, c'est très bien. Mais personne ne parle du procès des tueurs, des assassins, de ces éléments armés qui ont été envoyés au Bas-Congo par le ministre de l'Intérieur, qui ont semé la désolation, qui ont détruit les maisons, qui ont détruit les villages et qui ont tué. Leur procès n'est pas médiatisé, on n'en parle pas. On parle seulement du procès de ceux qui ont été attaqués et qui étaient sans armes. C'est dommage. Néanmoins, évidemment, nous disons que s'il y a des personnes, des adeptes qui auraient commis des actes répréhensibles, bien sûr qu'ils doivent être poursuivis. Mais nous ne voulons pas d'une justice à deux vitesses. Nous voulons que tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire soient sanctionnés, y compris l'autorité politique, qui doit bénéficier de la sanction politique. Et nous avions apprécié les conclusions du Parlement, qui ont justement demander qu'une solution politique soit apportée à cet événement que nous appelons nos massacres, deuxième massacre au Bas-Congo en une année, et que d'autres appellent avec beaucoup de légèreté événement BDK au Bécon. Voilà un peu ce que j'ai à dire là-dessus. Donc nous attendons aussi la sanction de tous ceux qui ont été impliqués, les éléments civils et militaires du côté du pouvoir, et qu'on fasse aussi un procès public équitable afin que qu'on puisse voir comment cette province, qui est aujourd'hui coupée en deux entre l'ANP et l'Union pour la Nation, peut encore fonctionner.
Merci, professeur. Maître Achille Kabongo, vous avez choisi de parler de l'incompétence des juridictions répressives congolaises en ce qui concerne l'indemnisation des victimes des catastrophes aériennes au sol. Qu'en dites-vous?
Là, je dois taper du poing sur la table et dire qu'en matière de droit aérien, la législation congolaise est encore incomplète et qu'il faudrait encore dans ce domaine-là que le Parlement puisse légiférer sérieusement en matière de droit aérien en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et nous disons ceci, que dans ce pays, nous devons développer une culture des engins volants. Quand les aéronefs volent, nous devons préparer une culture de ces engins volants à travers la législation. Il y a des dommages qui peuvent survenir, des accidents et autres. Les législations doivent prévoir la responsabilité du transport. Quand je vous parle de l'incompétence des juridictions répressives congolaises en ce qui concerne l'indemnisation, c'est tout simplement un cas que nous avons constaté dans notre législation que les dommages causés aux victimes à la surface, prenons l'exemple de la catastrophe aérienne de Goma, nous avons vu que l'avion a quitté la piste pour aller déferler sur la population et terminer sa course dans un quartier résidentiel. Et tous les dommages qui sont causés aux victimes au sol, toutes ces victimes-là, si elles attaquent le transporteur aérien devant les juridictions compétentes pour homicide involontaire, les avocats de ce transporteur aérien peuvent se fonder sur des jurisprudences. Il y a une célèbre jurisprudence, des célèbres jurisprudences de la Cour de cassation française, qui, à travers la Convention de Rome, qui régit l'aviation civile internationale, exonère le transporteur aérien. C'était le cas pour Titka. Lorsque l'on a déféré les pilotes de l'Antonov devant le tribunal de grande instance de la Gombe pour, en matière pénale, pour homicide involontaire, les avocats de Sibé à l'époque ont soulevé ces exceptions-là, dont l'arrêt célèbre, comment la jurisprudence célèbre qu'on appelle l'arrêt Rousseau de la Cour de cassation française, qui a exonéré à l'époque Sibé Zaïre. Et ces jurisprudences sont encore d'application aujourd'hui. C'est vous dire que des avions peuvent nous tomber sur la tête, mais quant à l'action pénale qui peut générer une responsabilité civile, c'est-à-dire dont les victimes peuvent se constituer partie civile, elle ne peut pas aboutir devant les juridictions congolaises tout simplement parce que, d'après la Convention de Rome, ces conventions-là ont fait que les arrêts qu'on est en train d'appliquer de la Cour de cassation française exonèrent les transporteurs aériens. Alors là, je voudrais appeler le Parlement à légiférer dans le domaine aérien pour que la responsabilité pénale du transporteur ou de ses préposés soit établie. Alors là, il y a une chose que nous n'acceptons pas, ce n'est pas bon d'admettre que la première dame de ce pays puisse commencer à chercher de l'argent pour l'indemnisation des victimes. C'est inadmissible. Nous, les avocats, nous disons que c'est inadmissible, c'est pas quelque chose qu'on devrait tolérer. C'est pas la première dame du pays qui devrait commencer à mendier l'argent pour les victimes de ces catastrophes-là. C'est au Parlement de faire en sorte qu'on puisse légiférer afin d'établir la responsabilité pénale d'abord du transporteur, de ses préposés qui conduisent ces appareils-là, afin que l'indemnisation au sol, en ce qui concerne les dommages causés aux tiers à la surface, puisse être valable devant les juridictions répressives.
Merci beaucoup, Monsieur Soudi Alimasi Kimputu. Nous rappelons que vous êtes conseiller au ministère de l'Intérieur. Dites-nous, messieurs, l'identification des abonnés dans les compagnies téléphoniques. Mesure prise par votre ministère est-elle conforme à la loi?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je tiens à rectifier une petite chose. La mesure a été prise de commun accord entre les ministères de l'Intérieur et les ministères de PTT. Et c'est conformément aux lois et règlements en vigueur. Et pour ceux qui me suivent, je les renvoie à l'article 6 de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo. C'est là où ces deux ministères, spécialement en ce qui concerne l'identification des abonnés, ont puisé le pouvoir pour prendre ces mesures en vue de réglementer le secteur qui a connu une perturbation tout à fait remarquable parce que nous étions, si pas les seuls pays, à acheter ou vendre des signes comme des arachides dans la rue, et instruments qui ont permis à ce qu'un certain nombre de compatriotes et d'autres qui venaient d'ailleurs, et ça leur permettait de commettre des forfaits, des actes graves, répréhensibles, et dont on ne savait pas mettre la main là-dessus. Et cette mesure-là, elle est tout à fait légale et même salutaire pour la justice. Et je suis heureux de parler de ce sujet aujourd'hui parce que depuis un certain temps, j'ai suivi même nombre de parlementaires, ont essayé de comprendre que les lois existent chez nous en cette matière. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la réglementation d'un secteur, on va se mettre à ériger d'autres lois alors que les anciennes lois existent qui n'ont pas été mises en application. Je vous ai donné une référence et c'est cette référence qui a permis à ce que ces deux ministres du gouvernement de la République puisse prendre leurs responsabilités face à cette situation. L'exemple de cette identification ici, je voulais apaiser tous ceux qui croient que ça donne possibilité à ce que les gens puissent mettre sous table d'écoute les téléphones des compatriotes. Ça n'a rien à voir avec cet aspect des choses. Ici, c'est comme une personne qui achète une voiture et il voudrait immatriculer cette voiture. Tout propriétaire d'un véhicule dépose son identité auprès des services de contribution. Là où il délivre la plaque d'immatriculation. Ça veut dire qu'il y a des conséquences qui vont suivre cette identification. Tout forfait que le véhicule peut commettre, on sait directement que ce véhicule appartient à X ou à Y et il est responsable de tous les actes qui sont produits par l'AG dont il est propriétaire. C'est l'exemple que je prends pour apaiser alors tous les abonnés qui n'ont pas eu peut-être des explications claires et nettes que l'identification ne signifie pas la mise sous table d'écoute d'un pauvre. Ça s'est fait dans tous les pays. Tous les pays modernes aujourd'hui, ils procèdent par cette manière des choses. Nous voyageons, quand vous entrez dans un pays étranger, avant d'acheter une carte SIM, on vous demande de décliner votre identité. Et si vous êtes étranger, on commence par photocopier votre passeport. Voilà un peu pourquoi cette mesure a été prise. Et c'était à l'issue de la constatation d'un certain nombre de comportements vraiment qui ne n'ont pas été en faveur des lois et règlements du pays. Merci.
Merci beaucoup. Nous tournons notre regard vers le professeur Boissa. Professeur, vous avez suivi les exposés des uns des autres. Quel est votre commentaire là-dessus? Mais une question tout de même, professeur. Nous vous avons suivi ici en train de demander qu'on punisse aussi ceux des officiels qui ont commandité cette opération. Mais pour les membres des BDK qui ont aussi commis des bévues, on ne peut pas aussi punir ceux-là.
J'ai déjà répondu. Ils ne sont pas dehors de la loi. Hein. La loi, c'est pour tout le monde. Hein. Mais c'est facile de chercher à punir les faibles. Hein. Ceux-là qui ont commandité les crimes, là, les gens qu'on a tués, dont les chiffres varient. Les ONG parlent de 100 morts et, je crois, 200 disparus. M. lui-même parle d'un millier. On parle de ceux qu'on a jetés à Louose dans le fleuve ou à Matadi. Tout ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de ceux qui ont commis des bavures, parce que même le gouverneur du Bas-Congo a reconnu dans un premier temps qu'il y avait des bavures et il avait regretté ça. Même le président de l'Assemblée provinciale. Mais quand on a tapé dessus par les hautes hiérarchies, ils ont commencé à se débiner. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est, sinon, ils risquaient de subir le sort du gouverneur du Sud-Kivu, n'est-ce pas? Donc, moi, je dis, OK, ceux qui commettent des fautes graves, lourdes et tout ça, ils doivent être poursuivis. Mais dans l'affaire ici, parce que c'est une affaire grave, une affaire d'abord qui est totalement politique, hein, et qui a fait l'objet d'un débat au Parlement, moi, je pensais qu'on allait attendre que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale remette son rapport, qu'on établisse les responsabilités et qu'on puisse poursuivre maintenant ceux qui ont commis des crimes. Or là, non. On s'en prend d'abord aux faibles parce qu'on veut faire peur à la population. En fait, on veut intimider la population pour des raisons politiques. Et nous continuons à dire, nous, que des choses comme ça, nous ne pouvons pas approuver ça. Donc, je n'ai pas dit que les adeptes de BDK qui ont commis des bavures ne doivent pas être sanctionnés. Je n'ai jamais dit ça, mais je suis légaliste, même si je suis dans l'opposition. Ça, c'est bien. Alors maintenant, je vais commencer par la question du crash à Goma. Mais, vous savez, c'est difficile. Est-ce que ce gouvernement a une politique en matière de réparation des dommages corporels des victimes des crashs? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a eu plusieurs crashs et les familles sont toujours passées au passé simple. Toujours comme ça. Ce n'est pas responsable. Ça, c'est un. Les deux. Est-ce que c'est de la compétence de l'épouse du président de la République aller demander des quêtes alors que le président de la République dispose d'une liste civile? Hein? Maman Cécé, qui a été dans ce pays, a créé les œuvres Maman Mobutu Sese Seko. Mais c'était sur la liste civile du président de la République. On n'a pas demandé une quête. On demande la quête à une population de gens avec sang, avec des gens qui sont payés, avec des fonctionnaires dont on connaît le salaire. C'est incroyable, ça. Moi, je crois que nous ne pouvons pas soutenir ça. Par contre, je soutiens ce que vient de dire Maître Kabongo. Mais les sociétés aériennes doivent payer parce que quand vous payez un billet d'avion, vous payez aussi une assurance, non? Les sociétés aériennes doivent payer, c'est évident. Et on doit les contraindre de payer. Et s'ils ne payent pas, on doit prendre des mesures. Et ces mesures sont prévues par la loi. Je suppose, je ne suis pas juriste, mais je suis sûr que le code pénal congolais connaît la manière dont on doit sanctionner ce genre de choses. Alors, concernant cette affaire d'aller s'identifier, bon, c'est une mesure pour rire qui a été prise dans la précipitation parce qu'il y avait des rumeurs dans la ville. Monsieur le conseiller, n'essayez pas de nous distraire, nous vous comprenons. C'est à la demande du ministère de l'Intérieur que la ministre du PTT s'est mise avec lui, qui est ministre d'État, pour faire ça. Mais c'est une mesure qui est là pour distraire la population d'abord, pour embêter la population. C'est une tracasserie administrative. Pourquoi? Mais parce que depuis Mobutu, depuis 87, nous avons des sociétés de télécommunications ici. Moi, j'en avais un. Jusqu'à 97, tous les Rwandais amenés ici par l'AFDEL sont arrivés. Nous étions identifiés par la société de télécommunications qui était intéressée. Nous étions identifiés par Comcel directement. Et les SIM n'étaient jamais vendus sur la rue. Mais c'est avec ce régime de l'AFDEL que maintenant on vend des SIM sur la rue. Qui est responsable de ça? Alors maintenant, puisqu'il y a des problèmes, non! Le gouvernement doit se rabattre sur les sociétés de communication. Commencer par l'interdiction de la vente des SIM sur la rue. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, réunir un comité d'experts qui verra comment ça se passe au niveau des pays qui gèrent cette matière. Que ce soit les États-Unis, la France, etc. C'est beaucoup plus simple. Et enfin, cette mesure n'a pas seulement un volet sécuritaire, elle a un volet financier, bien sûr. Mais c'est toujours sur les sociétés des télécommunications, on va se rabattre pour savoir combien de communications, combien l'État, on doit lui payer, etc. Ce n'est pas sur les pauvres gens. Et bon, si cette mesure va échouer, nous, les politiques de l'opposition, nous serons obligés d'aller nous identifier, parce que sinon, nous serons encore poursuivis, parce que nous sommes déjà sous écoute, mais ils trouvent que c'est insuffisant. Hein? Mais la population va refuser. C'est une tracasserie administrative, maître. Il faut reconnaître ça. Et je demande au ministre de l'Intérieur, au ministre des PTT, de réunir les experts pour revenir à la raison et gérer cette matière d'une manière correcte. Parce que si ça a été fait dans un but sécuritaire, je rappelle que le domaine de la sécurité se gère toujours dans la clandestinité, dans la confidentialité et aussi dans l'efficacité.
Maître Achille Kabongo, quelle est votre réaction après les interventions du professeur Boissa et de M. Soudi Alimassi?
Je commencerai d'abord par l'intervention de M. Soudi Alimassi pour lui dire que cette mesure, elle est pratiquement inutile pour moi. Elle n'a pas vraiment sa raison d'être parce que tout abonné qui va dans une compagnie de téléphonie cellulaire souscrit un contrat avec cette compagnie. Je me rappelle quand nous avons acheté les premiers numéros de Celtel. Nous avons rempli un contrat en bonne et due forme. Le gouvernement a la capacité d'accéder directement au contrat à partir de la société de téléphonie cellulaire.
Mais on dit aussi que la SIM se vend comme ça.
Mais
sur
écoutez,
la route.
Je vais vous dire une chose. Les sociétés de téléphonie cellulaire qui sont venues ont une technologie qui permet au gouvernement d'identifier tous ceux qui téléphonent, même si vous achetez des SIM au coin de la rue comme des arachides. Il suffit de se brancher sur une fréquence, on écoute tout. On sait qui téléphone à quel bout de la rue et qui utilise tel SIM. Tout simplement, nous demandons ceci. C'est au ministère de l'Intérieur d'instruire le Conseil national de sécurité et notre agence nationale de sécurité de lui donner des moyens et de créer un service approprié pour faire cette identification. Et d'ailleurs, ici, je vois qu'il y a une mauvaise manière de s'y prendre de la part du ministère de l'Intérieur. Comment ? Je vais vous le démontrer. Ces opérations d'identification, en principe, c'est des opérations qui se font dans la clandestinité et dans le secret. On ne peut pas le faire ouvertement au vu et au su des personnes et lancer comme une opération d'identification électorale. Ça ne se fait pas. Écoutez, vous allez demander par exemple au professeur, identifiez-vous sur la SIM Celtel. Et il s'abonne chez Tigo. Parce que chez Tigo, il y a des appels free entre 7h et 18h. Vous allez encore lui demander d'aller s'identifier sur la SIM Tigo? Et en même temps, si Tigo il entre chez Vodacom, vous allez encore lui demander d'aller s'identifier. Non, c'est un non-sens. Vous comprenez? Il y a autre chose à faire qui est plus important dans ce pays. La sécurité, par exemple, l'affaire Mondodia Congola. Il faut qu'on identifie qui est allé tirer sur la population. Il faut qu'on identifie qui sont ceux des Mondodia Congo qui ont enterré des gens vivants. Vous comprenez? Il y a mieux à faire plutôt que de distraire la population avec des mesures de téléphonie cellulaire, à partir du moment que le gouvernement lui-même, à partir de la technologie qu'on a portée, regardez un peu, je vais vous dire une chose, très importante à l'égard aussi du conseiller, du ministre d'État, parce qu'il faut qu'on le dise. Écoutez, il nous identifie à partir de la SIM. Est-ce que vous savez qu'il y a des messages qu'on peut envoyer, pas à partir de la SIM, à partir de l'appareil? Le Bluetooth, par exemple. On peut envoyer une image, mais cette image-là n'est pas contenue dans la SIM. Ça se fait à partir de l'appareil. Et quiconque dans ce rayon-là a son Bluetooth ouvert reçoit la même image. Vous comprenez? Vous pouvez identifier, mais j'envoie une image. Vous allez me contrôler comment? Vous voyez? C'est un service qu'il faut organiser. Puis je peux vous dire ceci. La mise sous écoute est organisée par les services de sécurité et pas le ministère de l'Intérieur. Ça ne relève pas de la compétence du ministère de l'Intérieur, mais des services de sécurité. Et qui le font dans la clandestinité, avec tout secret. Parce qu'on ne peut pas le faire comme ça ouvertement. Si le professeur sous écoute et moi je suis sous écoute, non. On ne va pas vous dire qu'allez vous identifier, tout ça comme le conseil est en train de dire que non, c'est une plaque d'immatriculation. Mais comment voulez-vous comparer la SIM à une voiture? La voiture s'est fait identifier à la direction urbaine de la direction générale des impôts. Mais comment allez-vous identifier quelqu'un? Vous allez donner une immatriculation à la SIM. La SIM elle-même est immatriculée par la compagnie qui la vend. Et je voulais dire ceci, que dans les clauses de contrat que signent les abonnés avec les compagnies de téléphonie cellulaire, c'est un contrat privé. Que vient chercher le gouvernement dedans? Une entente entre le ministre des PTT. Et le ministre d'État de l'Intérieur n'engage pas les abonnés. Ça vient perturber le contrat. En quoi est-ce que ça vient faire? Le gouvernement a un pouvoir de contrôle et de régulation. Ce qu'on peut demander au ministère, c'est d'exercer le contrôle et la régulation. Mais quand on exerce le contrôle et la régulation, on exerce en amont, c'est-à-dire à partir de la compagnie de téléphonie cellulaire et pas chez les abonnés. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis que, à tout point de vue, cette mesure semble être un non-sens.
Merci beaucoup, Monsieur Sudi Alimassi. Votre réaction?
Merci beaucoup. Souvent, j'ai comme l'impression que les pays ont des problèmes parce que la difficulté de compréhension commence à partir de l'élite. Tout simplement parce que cette mesure des téléphonies cellulaires. D'abord, ici sur le plateau, je constate qu'il y a une confusion entre placer sous écoute et identification de l'abonné. Nous parlons de l'identification de l'abonné. L'abonné, c'est qui ici? C'est l'acheteur de cette carte SIM. Le professeur l'a si bien dit. D'abord, il a oublié que la technologie où il était identifié préalablement, elle a changé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On ne lui vendait pas une carte SIM. On lui remettait un gros appareil où il est déjà abonné préalablement. Mais aujourd'hui, on vend la carte SIM comme on vendait les arachides. Cette carte SIM-là, dès que vous l'avez, vous êtes abonné auprès de cette société de télécommunication. Et tous les forfaits que vous commettrez, personne ne saura que c'est vous qui l'avez fait. Parce que nous, à ce qui nous concerne, c'est pour des raisons d'ordre public et de sécurité. J'ai entendu parler qu'on a dit la sécurité, ici ça doit se faire clandestinement. Mais non, on confond les choses. L'acheteur d'une carte SIM, celui qui va acheter auprès d'une société de télécommunication, vous l'avez bien dit, avant on lui tendait une fiche. C'est, il remplissait la fiche et il remettait cette fiche auprès de la société de télécommunication. C'est tout simplement ça qu'on demande, qu'on puisse le faire parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages. Le gouvernement a pris tout simplement ses responsabilités pour remettre les pendules à l'heure. Tous les acheteurs qui pouvaient peut-être utiliser ces cartes SIM à vue de commettre les forfaits, ainsi de suite, aujourd'hui, et vous allez les constater, la mesure, elle est salutaire. Elle est même saluée par toute la population. Celui qui va acheter, il va s'identifier préalablement. Et s'il va commettre des infractions autour de cette carte SIM-là, il sera bien entendu identifié. S'il passe le téléphone à quelqu'un d'autre, cette carte SIM à quelqu'un d'autre pour le faire, il sera identifié. Parce que c'est lui qui l'a acheté. Je suis étonné que ce soit vraiment les élites qui puissent parler le contraire de ce que j'ai dit. C'est mal. Je voudrais revenir à l'affaire Bundjula Congo. L'affaire Bundjula Congo. Je m'excuse de me répéter. Je suis en face des gens qui comprennent facilement les lois et règlements du pays. On veut mettre sous un même pied d'égalité les administrés par rapport à leurs dirigeants. C'est tout à fait vraiment grave. Je prends l'affaire Bundjula Congo dans sa phase active. Parce qu'aujourd'hui, il y a un procès qui se passe en Banzangungu. Ce procès se passe en Banzangungu. Les avocats de Bundjula Congo n'ont jamais parlé de massacre. Ils n'ont jamais parlé de génocide. Moi, je viens l'apprendre seulement au niveau des politiciens, ici à Kinshasa. Ces massacres-là, et le professeur a même parlé de 100 morts, de 200 disparus, de fausses communes. Mais ça, ce sont des accusations politiciennes. Nous sommes dans un état de droit. La Constitution, elle sépare le pouvoir. Si l'affaire est devant les cours des tribunaux, en fait, tout celui qui veut se plaindre, il va se plaindre devant ces cours des tribunaux-là. À ce moment-là, on va trancher. On va dire celui qui a tort ou celui qui a raison. Mais je vous assure que les groupes Bundjula Congo, c'est un groupe de déviationnistes, tout simplement. Ils ont commis des forfaits graves et la police nationale congolaise, qui est cette police de tout le monde, est allée remettre de l'ordre. Pour ceux des policiers qui ont commis des dérapages dans l'exercice de leurs fonctions, je vous apprends, monsieur le professeur, et estimé confrère en face de moi, qu'il y a un certain nombre de policiers qui sont en train d'être jugés dans les juridictions compétentes. Ça veut dire que tout le monde a été pris en compte. Lorsque l'opposition veut parler du ministre de l'Intérieur, mais l'intellectuel doit savoir qu'entre le ministre de l'Intérieur et l'exécution du policier, il y a beaucoup d'échelons. Il y a l'inspecteur général de la police, l'inspecteur provincial, le gouverneur de province auprès duquel la police a été placée pour rétablir l'ordre. Et l'ordre a été rétabli. Posez la question aujourd'hui si vous voulez que nous répondions politiquement. Demandez à la population de Luozi aujourd'hui. Elle va vous dire qu'elle vit en paix. Mais suivez aussi le procès qui se passe en Banzangungu. En Banzangungu, je vous assure, il y a même un député qui a débarqué là-bas en plein procès. Il est rentré, la clé dans ses pattes. Et c'est très malheureux. Moi, je voudrais tout simplement que l'opinion qui nous suit, qu'il puisse faire très attention avec la classe politique actuelle. L'opposition doit être une opposition positive. Vous venez vous éduquer la population. Et non passer pour raconter des hérésies à cette population-là. Elle en a marre.
Oui, monsieur.
Le pays doit démarrer.
Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Nous avons même dépassé de quelques minutes. Nous allons allons accorder 30 secondes à chacun de nos invités pour conclure. Professeur, vous avez 30 secondes, vous pouvez nous donner votre mot de la fin.
Non, le mot de la fin, c'est que c'est triste, parce que, en fait, malgré ce que notre frère Gilbert Kakoma a dit au ministre de l'Intérieur, son cabinet continue à l'entretenir dans l'erreur, dans le noir. Il lui demande de continuer à tuer les pauvres citoyens. Et ça, c'est malheureux. Et ça, c'est contre la démocratie. C'est même dangereux pour la démocratie. Et c'est très dangereux pour le président de la République. Et sachez qu'au Bas-Congo, la cote de votre famille politique est au plus bas. Un des deux, à l'Ouazi, ce n'est pas calme, c'est faux. C'est un calme précaire, c'est reconnu de toutes les institutions, assemblées pour même le gouverneur, et les gens sont dans la forêt. C'est pas ça la paix.
Maître Achille Kabongo, vous avez 30 secondes de parole pour donner votre mot de la fin.
J'aimerais dire tout simplement que quand vous souscrivez un contrat de téléphonie cellulaire, tout abonné adhère aux conditions générales de son fournisseur. Il adhère également aux conditions générales de l'opérateur choisi. Et l'opérateur choisi le remet en contrat. C'est-à-dire, quand vous payez une SIM, c'est comme si on vous remettait un contrat. Alors, j'aimerais dire ceci. Le fait que le ministère de l'Intérieur et le ministère de Poste, Téléphone et Communication ont décidé une identification, ils ont inséré dans ce contrat-là, entre les abonnés et les compagnies de téléphonie cellulaire, des clauses qui n'existent pas. Vous comprenez? Ce sont des clauses contralégales. Tout simplement, nous leur demandons ceci, c'est de ne pas faire cette identification. Je clôture en disant ceci. Quelqu'un peut s'identifier au Katanga. Je récupère la SIM à Kinshasa. Je commets un forfait avec à Kinshasa. Et je commets un forfait de telle sorte qu'on ne puisse pas m'identifier. Vous allez identifier une personne de non-lieu au Katanga. Il reste à savoir si cette personne-là, avec les cartes de lecteurs qui circulent ici, est de nationalité congolaise réellement, et congolais réellement ou pas. Vous voyez un peu que c'est une opération non-sens. Tout simplement, nous demandons ici qu'il puisse exercer un contrôle en amont à travers les services qu'offrent ces compagnies de téléphonie cellulaire. On peut contrôler les fréquences, on peut faire de l'identification à partir de tout ça. Même en Europe, les gouvernements se sont dotés des moyens pour faire ça. Et j'ai dit ceci en terminant, le secret des lettres est inviolable. De la même façon, le secret des communications, et c'est un droit constitutionnel. Il ne faut pas violer les droits consacrés par la Constitution.
Monsieur Sudi Alimassi, vous avez 30 secondes pour clôturer.
Les conditions générales du fournisseur ne doivent pas être contraires à l'ordre public. Et le fournisseur, lorsqu'il vient dans un pays, il doit se conformer aux lois et règlements de ce pays. Je rappelle à l'opinion qui me suit que tout abonné utilisateur d'un instrument téléphonique cellulaire doit se faire identifier. Parce que les mesures sont prises, l'autorité est tout à fait ferme. Celui qui ne se conformera pas, il verra tout simplement son abonnement interrompu. Je voudrais le deuxième élément, oui, c'est comme ça que l'État fonctionne. Le deuxième élément, l'affaire Bundu-Lya-Congo, que la population ne soit pas trompée. Bundu-Lya-Congo, ce mouvement-là, c'est un mouvement de déviationnistes. La population de l'Ouest aujourd'hui est dans un calme absolu. Ceux qui ont des frères là-bas, ils peuvent appeler et ils vont vous dire que l'État les a enlevés, ce gourou qui les a rendus dans des conditions très difficile pour vivre. La vie aujourd'hui a repris normalement, les gens vont dans les chaliments.
Nous remercions tous nos invités, c'est aussi là la fin de notre débat de ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Okapi.